Catherine Desrosiers, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de l'association Emmanuel, qui favorise l'adoption d'enfants ayant un handicap. Quel est donc, pourquoi ça s'appelle Emmanuel d'abord?
Bien, en fait, c'est une organisation qui existait déjà en Europe, en France.
Oui. Et
installée là, dans les années 70, début 80. Puis, en fait, nous avons la même mission de base qui est de favoriser l'adoption d'enfants avec des besoins particuliers. Donc, ce sont vraiment un couple de Français là, qui sont venus ici puis qui ont eu l'idée de faire la même chose un peu avec le même nom d'organisation. Mais dès le départ, par contre, ce sont un groupe de parents québécois qui ont pris ça en main et qui ont jeté les bases avec nos règlements, nos lois et notre culture ici. Alors,
et au Québec, voilà. Vous existez depuis une trentaine d'années?
Tout à fait, depuis 87, effectivement.
Oui. Et pourquoi avoir un organisme qui se spécialise dans l'adoption d'enfants qui ont un handicap ou qui a des besoins particuliers?
Bien, en fait, c'était pour répondre à deux volets. Je dirais le premier, c'était le besoin que des familles qui avaient adopté, au tout début, là, dans les années 80, quand ça commençait à être possible de pouvoir adopter des enfants avec des besoins particuliers, ils ont eu envie de se regrouper, ces gens-là, parce qu'ils se sentaient tous un peu seuls dans leur réalité, mais en se réunissant, en s'offrant du soutien, donc c'était ce premier volet-là là, qu'ils ont pu aller chercher. Et le deuxième, c'est vraiment, nous, on travaille en collaboration avec les services sociaux de la province. Donc, c'est l'autre volet qui est très important parce que eux reconnaissent que nous avons ce credo-là très particulier, cette expertise-là de pouvoir aider, accompagner les gens qui réfléchissent à l'adoption puis qui pourraient avoir une ouverture pour des besoins spéciaux. Alors, ils vont faire appel à nous pour pouvoir les aider dans les recherches quand ils n'arrivent pas à trouver une famille pour un enfant avec des besoins bien particuliers.
Et on parle de quel type de handicap ou de besoins particuliers?
Alors, c'est très, très large et variable, hein, je dirais, selon les années. C'est sûr qu'au tout départ, on avait beaucoup d'enfants avec, par exemple, la trisomie 21, des handicaps plus de nature physique, paralysie cérébrale ou avec la déficience intellectuelle, des trucs comme ça. Et depuis une dizaine d'années, 10-15 ans, on est plus dans des portraits d'enfants avec une exposition importante à de la négligence ou dont il y a eu de la consommation durant la grossesse ou une très grande prématurité avec d'autres facteurs de risque. Donc, c'est souvent des enfants qui ont un an et demi et qui cumulent beaucoup de problématiques et qui, en plus, ont été exposés à de la négligence. Donc, ça prend des gens qui ont vraiment la capacité de dire « je vais accompagner un enfant dans son chemin de vie et puis je suis ouvert à faire face aux différents défis qu'il pourrait y avoir sur mon chemin ».
Oui. Les enfants dont il est question, est-ce qu'ils proviennent surtout de la DPJ ou ce sont les parents biologiques qui se manifestent après un diagnostic?
De façon générale, c'est vraiment des enfants qui sont sous la LPJ, là, donc vraiment la DPJ, là, pour prendre un terme que les gens vont bien comprendre rapidement. Mais il arrive qu'il y a des parents qui font face à une grossesse désirée, voulue, suivie en santé et qui mettent au monde un enfant qui a un handicap et qui, pour différentes raisons, pensent que l'adoption est une meilleure solution parce qu'ils ne se sentent pas capables là, de faire face à ce défi-là ou à cette réalité-là. Alors, préfèrent confier à une famille adoptive. Mais ça demeure que c'est plutôt rare, là.
Et quel est votre rôle à l'Association Emmanuel dans le processus d'adoption auprès des familles qui souhaitent adopter et auprès des femmes ou des familles qui ont donné naissance à un enfant différent?
Alors, pour la dernière question, donc c'est vraiment un travail de collaboration parce que c'est encore une fois, c'est la DPJ qui doit prendre le consentement à l'adoption. Donc, c'est vraiment eux qui ont cette responsabilité légale-là de pouvoir prendre le consentement à l'adoption. Par contre, nous, on offre également du soutien pour les gens qui vivent une grossesse ou qui mettent au monde un enfant puis qui veulent pouvoir avoir un lieu de soutien, de voir qu'il y a une alternative qui existe. Parfois, juste en me parlant, en faisant un petit bout de chemin, en rencontrant d'autres parents, ils arrivent à voir leur futur différemment. Mais parfois, effectivement, l'adoption, c'est ce qu'ils préfèrent. Et puis là, on est vraiment un lien, en fait, entre les différentes organisations qui peuvent graviter dans leur vie à ce moment-là. Là.
Donc, puis, oui, oui, allez-y.
Ben, du côté des familles adoptives, vous m'aviez posé la question. Alors, ben, on offre des rencontres avant que ces gens-là adoptent, donc pour les aider dans leur réflexion, se diriger vers le bon type de projet. Il y a beaucoup de réalités aussi géographiques, là, tu sais, la réalité d'une famille de Chicoutimi versus Montréal qui veut adopter, ben, ça sera pas la même. Alors, moi, en ayant cette lunette-là très provinciale, ben, je suis capable d'aider les gens de façon plus spécifique, là, par rapport à, aussi à leur environnement ou ce qu'ils vivent. Là.
Et après l'adoption, j'imagine que vous suivez les familles pendant un certain temps?
Mm-hmm. Bien, en fait, nous, on est un organisme dont les gens doivent être membres. Donc, tant et aussi longtemps que les gens sont membres, ils ont accès effectivement à nos services en post-adoption, que ce soit on offre du soutien ponctuel, mais on a des rencontres annuelles, on a un camp familial, on a des webinaires, toutes sortes d'outils là, et de services qui sont gratuits ou à très faible coût pour que les gens puissent effectivement continuer d'entretenir un réseau autour d'eux parce qu'on sait que c'est super important le réseau en post-adoption parce que ce sont tous des enfants qui ont de grandes vulnérabilités.
Donc, il faut avoir vraiment réfléchi là, avant d'adopter un enfant et d'adopter un enfant qui a un handicap ou qui a des besoins particuliers. C'est pas pour un an là, nécessairement, c'est pour la vie.
Tout à fait. Tout à fait. Souvent, c'est une longue réflexion. Puis, ce que je rencontre fréquemment, en fait, comme caractéristique chez les candidats, c'est que souvent, dans leur vie personnelle, ils ont déjà côtoyé de façon étroite quelqu'un qui avait une déficience ou une problématique, que des fois, c'est dans la fratrie ou dans la famille proche ou dans le voisinage. Puis, il faut que les gens se sentent vraiment interpellés, attirés, à l'aise. Il faut vraiment qu'il y ait un coup de cœur quelque part.
Oui, mais en même temps, c'est plus qu'un coup de cœur. Il faut que ça soit réfléchi.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est ce que j'allais ajouter. Okay. Mais le coup de cœur, c'est juste la bougie d'allumage. Mais
un élan.
Oui, un élan, exactement. C'est le bon mot. Mais après ça, il y a tout le rationnel. Puis il y a énormément aussi de critères qui sont vraiment de l'ordre de ce qui est demandé par justement les services sociaux dans leur évaluation psychosociale qu'ils vont faire. Parce que pour adopter, il faut avoir eu une évaluation, qui c'est à peu près 10-12 heures d'entrevue là, avec un praticien reconnu. Bien là, on fait tout le tour là, de la question avec les candidats pour s'assurer que cette démarche-là est bel et bien réfléchi, réaliste et va être dans le temps gagnante.
Et est-ce que les parents biologiques peuvent demeurer en contact avec les parents adoptifs?
En fait, ce que la loi nous dit, la loi vient un peu encadrer ce type de démarche-là, de demande-là. C'est possible de le faire de façon... souvent, les contacts sont relativement... en fait, souvent, c'est quelques photos par année ou des nouvelles ou peut-être de temps en temps une rencontre, mais généralement c'est des demandes qui sont relativement raisonnables et qui sont les services sociaux vont encadrer ça là. La loi a pris ça également. Ouais.
Et de quel type de soutien les parents adoptifs ont le plus besoin?
En fait, je pense que leur grand besoin, c'est une fois que l'adoption est prononcée, que c'est d'avoir un lieu d'échange. Vraiment, de parler à d'autres parents qui ont une réalité semblable, qui font face aux mêmes défis. Il y a beaucoup d'échanges de trucs, de services, souvent, qui peuvent être plus faciles à trouver quand on a autour de nous des gens qui ont déjà eu à faire ce même chemin-là. Ça permet beaucoup de dédramatiser des situations, puis de se sentir moins isolé. Je dirais que le grand défi, c'est ça, c'est de ne pas rester isolé.
Oui, et de ces temps-ci, c'est pas nécessairement facile de ne pas rester isolé avec la pandémie. Est-ce que vous êtes obligé d'adapter votre offre d'aide?
Oui, ben nous, on a adapté, en fait, sous forme de webinaire beaucoup. Donc, on avait déjà la capacité de le faire, mais disons que on a été forcé de plusieurs services n'ont pas eu lieu, là, les rencontres physiques, le camp annuel et tout ça. Puis pour plusieurs, c'est un depuis 25 ans là, que c'était dans leur calendrier là, pour certains des plus anciens. Donc, c'est sûr que c'est un gros, c'est quasiment un deuil de ne pas pouvoir avoir ces rencontres-là cette année. Donc oui, on a adapté en webinaire et tout ça.
Bon,
c'est un souci
au moins
qu'on porte. Ouais.
Et en terminant, Catherine Desrosiers, j'ai vu sur votre page Facebook que vous étiez à la recherche de familles biologiques pour une série documentaire.
Bien, en fait, c'est une boîte de production qui nous a fait cette demande-là. Donc, nous, on a tout simplement relayé l'information. Alors, ceux qui pourraient avoir cet intérêt-là peuvent aller sur notre page Facebook, en effet, pour avoir les coordonnées de la boîte de production.
Et vos coordonnées à vous, c'est emmanuel.qc.ca. Vous avez vraiment un site Internet très, très vivant et plein, plein d'informations. Catherine Desrosiers, directrice générale de l'association Emmanuel, merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes de votre précieux temps.
Oui, merci à vous.
Bonne journée.
Bonne journée.